L'évangile de Matthieu est pour beaucoup un évangile, l'évangile favori, parce que au début de l'évangile de Matthieu se trouve le fameux sermon sur la montagne, et qui est ici présenté avec davantage de détails que dans les autres évangiles. Il y a en réalité dans l'évangile de Matthieu 5 discours qui sont rapportés par l'évangéliste. 5 discours de Jésus. Et ce que nous appelons le sermon sur la montagne, qui se termine à la fin du chapitre 7, se trouve être le premier de ces sermons. Dans ce sermon sur la montagne, il y a un discours de Jésus qui nous est familier aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que pour ceux qui entendaient ce discours de Jésus, c'est un discours véritablement révolutionnaire. Ce que Jésus dit dans ce discours va carrément à contre-courant de la manière de penser de ceux qui sont là en train de l'écouter. C'est un discours révolutionnaire. D'ailleurs, lorsque Matthieu termine le rapport qu'il fait de ce discours, il dit dans l'évangile, dans son évangile au chapitre 7 et au verset 28, « Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. » Les gens reconnaissent que Jésus apporte là quelque chose de différent de ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. C'est un discours de Jésus, après tout. Le prochain discours de Jésus rapporté par l'évangéliste Matthieu se trouve au chapitre 10. C'est le deuxième discours, c'est un discours missionnaire cette fois-ci. Dans le premier discours, Jésus parle au cœur et il invite ceux qui l'écoutent à avoir un cœur différent, un cœur nouveau. Mais dans le deuxième discours, il va les envoyer comme missionnaires, c'est au chapitre 10. Entre ces deux discours, entre le sermon sur la montagne et le discours missionnaire du chapitre 10, Matthieu va apporter son témoignage. Et il est intéressant de voir la façon dont Matthieu s'y prend pour apporter son témoignage. Dans les chapitres 8 et 9, Matthieu va présenter 3 séries de 3 miracles chacune. 3 séries de 3 miracles, 9 miracles, que Matthieu va organiser pour donner son témoignage. Et j'aimerais regarder ces 3 séries de miracles avec vous pour comprendre ce que Matthieu a à nous dire sur celui qu'il a suivi tout au long de son ministère, le Christ. 3 séries de miracles pour présenter qui est celui qui est son maître et son sauveur. Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8. Et au début de ce chapitre, il nous est présenté un premier miracle. Il nous est dit au premier verset, « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est déjà une approche extraordinaire. Ce lépreux vient véritablement lancer un défi à Jésus et lui dit, « Si tu le veux, tu peux. » qui est une manière de mettre vraiment Jésus au pied du mur et qui est une façon extraordinaire pour Jésus de lui répondre. Parce que devant cette situation, que veut Jésus? Et c'est l'occasion pour Jésus de répondre de tout son cœur, « Mon cher ami, je le veux, sois pur. » Cet homme pensait mettre Jésus dans un coin. Et au contraire, il donne à Jésus l'occasion de dire ce qu'il en pense. Et comment? Tu crois que je ne le veux pas? Eh bien, je te le dis, je le veux, sois pur. Et cet homme est purifié. On a là le premier miracle que Matthieu rapporte, qui est la guérison de ce lépreux. Selon la loi, les lépreux devaient se tenir à l'écart. Ils devaient avoir leurs vêtements déchirés. Il devait se voiler le bas du visage. Il devait crier « impur, impur » de façon à garder les gens éloignés d'eux. Ils vivaient en colonie, hors des villages. Ils étaient véritablement rejetés de la société pour différentes raisons. Et dans la mentalité qui prévalait, on considérait que si l'on était frappé de cette maladie-là, c'est que vraiment on était des pécheurs irrémédiables, parce que pour que Dieu nous frappe d'une maladie pareille, il fallait vraiment qu'on soit un grand pécheur. Et par conséquent, au rejet social s'ajoutait ce rejet religieux qui faisait peser sur les épaules de ces gens une culpabilité énorme. Voilà le lépreux. Autrement dit, ce lépreux, bien entendu, n'a pas accès au temple. Et puisqu'il n'a pas accès au temple, il n'a pas accès à Dieu non plus. Voilà cet homme que Jésus va guérir. Et vous comprenez maintenant pourquoi il lui pose la question de cette façon-là. Si tu le veux, est-ce que tu le veux vraiment? Cet homme est rejeté, il n'a accès ni au temple, ni à Dieu. Et Jésus, dans sa réponse, lui dit « Comment que je le veux ? Sois pur. » Il lui enlève cette honte sociale, il lui enlève sa maladie, il lui enlève le fardeau de cette culpabilité qu'on lui a mis sur les épaules. Dieu veut qu'il soit pur. Et Jésus le purifie. C'est le premier miracle que Matthieu rapporte. Le deuxième miracle que Matthieu rapporte se trouve juste après, au verset 5, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et un petit peu plus loin, il est dit au verset 10 « Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. » Cet homme est un étranger. En fait, c'est l'envahisseur, c'est un Romain. Un chef romain, un soldat. Et il vient voir Jésus parce que son serviteur est malade. Dans la mentalité des Romains, les serviteurs, les esclaves, ce sont des outils de travail, avant d'être des gens. Mais cet homme-là, il est différent des autres. C'est un Romain particulier. Il vient voir Jésus pour le supplier de guérir son serviteur. Cet homme aime son serviteur. Son esclave n'est pas un outil, c'est une personne. Et il veut voir Jésus lui demandant de guérir son serviteur. Et Jésus lui dit, je vais le guérir. Et cet homme lui dit, non, attends. Moi, militaire, quand je donne un ordre, il est exécuté. À combien plus forte raison, toi, si tu donnes un ordre, ça sera suffisant pour que mon serviteur soit guéri. Et Jésus dit, waouh, j'ai jamais vu une foi pareille dans mon propre peuple. Et cet homme va avoir sa prière exaucée, Jésus va le guérir. Jésus va d'ailleurs dire, c'est le verset 11, « Or je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » C'est un Romain, c'est un non-juif. Lui non plus n'a pas accès au temple. Lui non plus n'a pas accès à Dieu, et son serviteur encore moins. C'est un étranger, il n'a rien à faire là-dedans. Vous remarquez que les premiers miracles qui sont présentés ici par Matthieu mettent en scène des personnages qui n'ont pas accès à Dieu dans la compréhension de ce temps. Pas accès au temple, pas accès à Dieu. Ils sont à part, ils sont à côté. Si Dieu est bon pour eux, tant mieux. Mais ils ne sont pas dans l'alliance faite entre Dieu et son peuple. Le troisième miracle que Pierre raconte se trouve au verset 14. Il est dit « Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main, la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. » La belle-mère de Pierre. Elle non plus n'a pas accès au temple, c'est une femme. Elle n'a pas accès à Dieu directement. Elle a accès à Dieu par son mari, si elle en a un. Mais si elle n'en a pas, elle est une femme, elle est dans le parvis des femmes là-bas, loin du temple. Matthieu met en évidence, dans les trois premiers miracles qu'il met en scène, des gens qui, dans cette mentalité, dans cette société, n'ont accès ni au temple, ni à Dieu. C'est auprès d'eux, justement, que Jésus vient. C'est leur prière que Jésus exauce. C'est eux qu'il va guérir et relever. Et dans ce sens, on voit dans ces trois premiers miracles ce Jésus qui, selon cette prophétie de l'Ancien Testament, va véritablement porter notre fardeau. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 53, il est dit au verset 4, « Il porte nos infirmités, il se charge de nos maladies. » C'est ce Jésus-là que Matthieu met en scène par ces miracles-là. Celui qui va porter nos iniquités, porter nos maladies. Et il va le faire en montrant que Jésus est désireux de le faire pour des gens qui se sentent exclus, hors de la portée de la grâce de Dieu. Un lépreux, un impur, un rejeté, un Romain, un envahisseur, une femme, une veuve peut-être. Matthieu veut montrer que le Jésus dont il est le disciple, c'est celui dont d'abord le pouvoir est illimité, la compassion est immense. Et cette compassion du Christ, elle s'étend d'abord à ceux qui en ont le plus besoin et qui semblent être loin de cette grâce, pour qui cette grâce semble inaccessible. C'est à eux d'abord que Jésus va l'apporter. La puissance de son amour, véritablement, s'étend à tous. D'abord à ceux qui semblent ne pas pouvoir la recevoir. C'est là la première image de son maître, la première image de Jésus, une puissance illimitée envers ceux pour qui cette puissance est inaccessible. Une compassion immense envers ceux qui n'en reçoivent plus. Il y a un intermède et une autre série de miracles. La deuxième série de miracles commence toujours au chapitre 8 de l'Évangile selon Matthieu et au verset 23. Il est dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Une situation extraordinaire, où les disciples sont paniqués. Oh, ce n'est pas la première fois qu'ils montent dans un bateau, ce sont des pêcheurs. Mais la tempête est si forte que pour eux, maintenant ils se disent, sera-ce notre dernière traversée? Et Jésus, lui, il dort. Moi, je n'aurais pas été avec ceux qui dorment. J'aurais été avec ceux qui ramaient ou qui s'accrochaient à tout ce qui flotte. Jésus dort. Et quand Jésus est réveillé, Jésus leur dit, Mais pourquoi est-ce que vous avez peur? Jésus n'a pas attendu la réponse, il a compris, il se lève, il parle au vent, à la mer, et tout d'un coup, tout est calme. La réaction de ces hommes est intéressante, verset 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il? À qui obéissent même les vents et la mer. Il y avait dans cette mentalité hébraïque une certaine croyance, et qui n'était pas fausse, mais qui disait que il y a trois choses qui appartiennent à Dieu uniquement. Dieu seul a autorité sur la nature, sur les démons, et sur le péché. Ces trois choses, seul Dieu a autorité pour les contrôler. Et vous comprenez maintenant la question de ses disciples. Qui est donc celui-ci à qui même les vents et la mer obéissent? Parce qu'ils comprennent que derrière ce miracle de Jésus, Jésus est en fait en train de leur dire qui il est. Il est Dieu venu parmi eux. Parce que vraiment, s'il est capable simplement par sa parole de mettre le calme sur cette mer en furie, qui est-il sinon Dieu lui-même? Et ils ne vont pas le dire, ils vont poser la question, mais enfin, qui est donc celui-ci à qui la mer et les vents et la nature obéissent? La réponse est sous-entendue. Le plus triste dans un sens, c'est que la réponse, ce ne sont pas les disciples qui vont la donner. Ce ne sont pas les gens de son propre peuple qui vont la donner. Parce que le miracle suivant est extrêmement parlant. C'est le miracle, en réalité, qui est au centre de cette structure de 3 fois 3. C'est le miracle du milieu, de la série du milieu. Elle est au centre. Et ce deuxième miracle de la deuxième série commence au verset 28 où il est dit « Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osa passer par là. » Il arrive sur le bord et voilà qu'ils sont accueillis de l'autre côté par deux fous démoniaques. Jésus sort du bateau, s'avance. Et vous pouvez imaginer tous les disciples qui reculent. « Seigneur, on est derrière toi. » Et vous voyez tous des pères d'yeux qui regardent derrière la barque ce qui va arriver. Plus personne. Jésus est là, mais les disciples, ils avaient affaire autour du bateau. Et Jésus s'avance vers eux. Et le texte, verset 29, est impressionnant. « Voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Ce ne seront pas les disciples qui vont dire qui il est. Ce ne sont pas non plus les gens de son peuple, ce seront les démons qui vont dire qui il est, le fils de Dieu. Faut-il qu'il y ait des démons pour dire qui est le Christ? Et vous comprenez maintenant pourquoi ce miracle est au milieu de cette structure. C'est parce qu'ici se trouve l'identité même de Jésus. Il est le Fils de Dieu, et c'est la première fois que c'est dit dans l'Évangile. Personne, depuis le début de l'Évangile de Matthieu, n'a osé dire « Voici le Fils de Dieu ». Ce sont les démons qui le diront. Et vous vous souvenez comment Jésus va guérir ces démoniaques, chasser les démons et rendre la liberté à ces hommes. Vous vous souvenez comment aussi, dans cette histoire, les porcs vont être jetés au-delà de la falaise parce que c'est en eux que les démons vont trouver refuge. À cause de cela, on va demander à Jésus de quitter les lieux parce qu'il a fait trop de dommages à l'économie locale. Mais ce deuxième miracle est intéressant. Parce que si véritablement, seul Dieu a autorité sur la nature, sur les démons, et seul Dieu peut pardonner les péchés, voici maintenant un deuxième miracle qui est en train de nous dire qui est ce Jésus, et ce sont les démons eux-mêmes qui le disent. Le Fils de Dieu. On peut imaginer quel est le troisième miracle de cette série. Il commence au début du chapitre 9. Jésus, verset 1er, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Vous vous souvenez, il n'y avait pas de possibilité d'avoir accès à la maison où Jésus prêchait. Les gens avaient pris d'assaut la place, tellement de monde, que cet homme malade avait perdu tout espoir d'être présenté à Jésus. Ses amis ont eu une idée géniale. Ils l'ont mis sur un brancard, ils sont montés par l'escalier extérieur pour aller sur le toit plat de la maison et ils ont commencé à démonter le toit. Fait un trou. Voilà un bon moyen de contourner la foule. C'est intéressant, le texte dit Jésus voyant leur foi. Ces hommes, ces amis qui ont aidé ce paralytique à rencontrer Jésus, avaient au moins autant de foi que lui. Ils étaient sûrs que Jésus pouvait faire quelque chose, mais il fallait rencontrer Jésus. Quitte à faire un trou dans le toit, c'est égal, mais on va t'amener à Jésus, tu vas voir. Et ils l'ont amené à Jésus. Et vous voyez Jésus, imaginez l'humour de cette situation, Jésus qui prêche, qui enseigne, et voilà, on lui descend le malade. Cet homme est paralysé. Et il est évident que cet homme veut être guéri de sa maladie, il veut pouvoir courir comme tout le monde maintenant. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ce n'est pas ce qu'il est venu demander. Il est devenu demander la guérison. Et Jésus ne répond pas à la question. Il lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Comme si Jésus avait cette capacité, et il l'a, bien sûr, de voir, au-delà de l'apparence, la prière profonde qu'il y a dans le cœur de celui qui est devant lui. Parce que si cet homme est malade, c'est à cause de ses nombreux péchés. Et c'est une chose d'avoir la guérison, mais il voudrait aussi que tout le poids qu'il porte avec s'en aille. Et vous pouvez imaginer le contact qu'il y a entre cet homme et Jésus quand Jésus va répondre à la vraie question qui est posée, en fait. Pardonne mes péchés. Et cet homme va avoir non seulement le pardon de ses péchés, mais il y a un problème en public à régler. Verset 3. Alors quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés ?» ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Cet homme se lève et rentre chez lui. Les gens qui sont là ont dans leur esprit l'idée que seul et uniquement Dieu a autorité sur la nature, que seul et uniquement Dieu a autorité sur les démons, que seul et uniquement Dieu peut pardonner les péchés. Et Matthieu est en train de nous montrer que Jésus a calmé la tempête, que les démons eux-mêmes ont dit qui il était. Et maintenant, Jésus est en train de dire à cet homme, « Tes péchés sont pardonnés. » Et pour que vous soyez bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un imposteur qui peut dire ce qu'il veut, Jésus va dire, « Eh bien, pour vous montrer que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. » Maintenant, il va opérer la guérison. Lève-toi et marche. Dieu ne va pas exaucer un imposteur, un blasphémateur. Et devant tout le monde, cet homme s'en va. Et tout le monde se dit, qui est donc celui-ci qui a le pouvoir de pardonner les péchés? Matthieu, dans cette série, est en train de dire, le maître que j'ai suivi pendant 3 ans et demi, c'est Jésus, le Fils de Dieu. C'est Dieu qui est venu parmi les hommes pour nous sauver. Et à ce moment-là, dans son témoignage, Matthieu va apporter son appel. Il est au verset 9. Matthieu, chapitre 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. C'est lui-même qui écrit son témoignage. En fait, ici, Matthieu est en train de dire, « Voyez, j'ai suivi Jésus. Lui aussi a étendu sa compassion envers moi, parce que j'étais un de ses péagers, j'étais un de ses renégats, j'étais un de ceux qu'on avait mis loin de la société, et qui n'avait pas accès à Dieu parce qu'il était un collaborateur avec l'ennemi. J'étais un de ceux-là. Et puis, j'ai découvert qu'il est véritablement le Fils de Dieu. La réalisation des prophéties, Dieu venu parmi nous pour nous sauver, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsqu'il m'a appelé, je l'ai suivi. Matthieu est en train de dire ici, si vous entendez sa voix, répondez comme j'ai répondu. Si à un moment ou à un autre, ce Jésus-là vous appelle, répondez comme j'ai répondu. Suivez-le comme je l'ai suivi. Matthieu ici invite ceux qui lisent son évangile à vivre la même expérience que lui. Longtemps après, il écrit cette expérience, mais il y introduit son témoignage en disant « Il m'a appelé, je l'ai reconnu comme mon sauveur, je l'ai suivi. » Cet homme, c'est Matthieu. Il aurait pu dire « C'est moi, s'il vous plaît, faites de même. » Matthieu n'a pas terminé son témoignage. Après qu'il ait accepté de suivre Jésus, il a continué à marcher avec lui. Et ainsi, il nous faut regarder la troisième série de miracles que Matthieu rapporte un peu plus loin dans son chapitre. Le premier des miracles de cette troisième série se trouve au chapitre 9 et au verset 18. Vous vous souvenez, il est ici question du chef qui vient présenter une requête à Jésus parce que sa fille est morte. Et il demande, impose-lui les mains, et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Il est ici question de la fille de Jaïrus. Et lorsqu'il arrive à la maison, il y a déjà les pleureurs, il y a déjà tout le folklore autour du deuil. Et l'on crie, et l'on pleure. Et Jésus arrive et dit, mais calmez-vous, elle dort. Et tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Tout le monde sait qu'elle est morte. Tout le monde sait qu'elle est morte. Et voilà quelqu'un qui arrive et qui nous dit, mais non, elle dort, je vais juste la réveiller. Pour qui il se prend celui-là? Et puis vous vous souvenez que Jésus va faire sortir tout ce monde-là. Faire taire tout ce monde-là. Et s'approcher de cette jeune fille. Verset 25, quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Pour ceux qui, comme l'a dit Matthieu, pour ceux qui découvrent que la compassion de Jésus s'étend à tous, surtout ceux qui en ont besoin, pour ceux qui ont découvert que Jésus, c'est leur sauveur qu'ils doivent suivre, dans la marche avec le Christ qui suit, Jésus va leur rendre la vie, une vie différente. Et dans la série de trois miracles qui va terminer le message, le témoignage de Matthieu, nous allons voir ce que Jésus fait pour ceux qui, comme Matthieu, le suivent. Le miracle suivant, il est raconté à partir du verset 27. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors, il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi !» Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus, pour ceux qui ont accepté comme Matthieu de le suivre, il rend la vie, il leur rend la vue. Et le miracle suivant, au verset 32, « Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Pour ceux qui, comme Matthieu, ont accepté Jésus comme leur maître et leur sauveur. Dans leur marche avec lui, Jésus va leur rendre la vie, Jésus va leur rendre la vue, Jésus va leur rendre la voix. Autrement dit, Jésus va les restaurer. Jésus ne veut pas simplement les renvoyer guéris, parce que maintenant, tous ceux-là à qui il a donné cette compassion et cet amour, et à qui il a donné le salut, ils lui appartiennent finalement. Alors, maintenant, il veut les restaurer, les reconstruire, leur rendre la vue, leur rendre la vie, leur rendre la voix et faire d'eux des nouvelles créatures en son nom. Le témoignage de Matthieu, c'est le témoignage que Matthieu voulait faire retentir pour tous ceux qui liraient son évangile. Et j'aimerais ce matin vous faire réentendre le témoignage de Matthieu pour que nous ayons l'occasion de répondre à nouveau comme Matthieu et de le recevoir. Nous avons sans aucun doute besoin de le découvrir comme Matthieu, de savoir véritablement qui il est après tout et de ne pas attendre que le diable lui-même nous le dise. Nous avons besoin de découvrir l'étendue de la compassion qu'il peut donner, l'étendue de sa puissance divine pour pardonner les péchés et l'étendue de sa puissance de restauration dans nos vies à chacun. Matthieu, aujourd'hui, par l'inspiration, nous apporte encore ce témoignage. Quand Jésus m'a appelé, je l'ai suivi. Faites de même. Et ainsi se réalisera ce que l'apôtre Paul disait dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Et au verset 32, il est dit « Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment donc ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ?» Il nous a donné toutes choses. Et lorsqu'il nous invite à le suivre, comme Matthieu, répondons « Suivons-le ».